Bonsoir les amoureux des livres et des apéros. Mark Zuckerberg s'est encore trouvé une ressemblance avec Dieu. Il a annoncé vouloir éradiquer toutes les maladies du globe et pour cela, il investira 3 milliards de dollars. IBM et Google ont les mêmes rêves, notamment avec Calico, une entreprise de Google qui veut éliminer, je cite, « le vieillissement et les maladies associées », autrement dit, qui vise l'immortalité. Google peut-il résoudre la mort ? C'était donc demandé en une le magazine Time. Oh ! Oh, la bonne blague, s'esclaffe la littérature. Mais quelle naïveté! Mais ils n'ont rien compris, c'est Shiva en blouse blanche. Mais c'est même l'inverse. L'espèce humaine s'éteindra, ravagée par qui? Par la maladie. Et les écrivains l'ont compris depuis bien longtemps. Dans Ravage de Barjavel, le choléra dévore la civilisation de 2052. C'est un bacille qui provoque une pandémie de vampires dans Je suis une légende de Robert Matheson. Ça peut être aussi la mauvaise manip d'un laboratoire censé nous guérir, ajoute Stephen King dans Fléau. Et chacun s'écrira comme dans La peste d'Albert Camus. Mais c'est impossible, chacun sait qu'elle a disparu de l'Occident avant de se rendre à l'évidence. Or, à ces microbes, bacilles, bactéries, il faut désormais ajouter le virus Ebola qui aurait dégénéré. Ça ne plaira pas à Mark Zuckerberg, mais c'est précisément ce qui se passe dans le roman « De profundis » d'Emmanuel Pirotte. Nous sommes à Bruxelles, dans un avenir pas si lointain. Le virus Ebola 3 décime les populations, les hôpitaux sont pris d'assaut, la barbarie s'incruste, les cadavres encombrent les rues. Dans le chaos, une fille survit et plutôt bien, elle s'appelle Roxane. Elle est dangereuse, elle sait se battre, mais il y a une chose contre laquelle elle n'est pas immunisée, les bonnes nouvelles. Alors, avant que la fin du monde ne nous transforme en boiteux couverts de pustules, nous partagerons un amuse-bouche avec Emmanuel Pirotte, peut-être le dernier. Elle nous livrera ses secrets de fabrication, ce sera le procès-verbal, nous donnera ses goûts littéraires inavouables, qu'a-t-on à cacher quand la désolation règne, avant que Frédéric Becbédé, spécialiste du grand chaos, ne vienne adouber ce désordre.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonjour Emmanuel Pirotte.
Bonjour.
Alors, on nous promet partout la guérison de toutes les maladies. Et voilà que vous arrivez avec un roman qui raconte les ravages du virus Ebola 3. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas copine avec Mark Zuckerberg et que vous n'êtes pas non plus très optimiste. Est-ce que j'ai tort ?
Non, vous avez tout à fait raison. Ce déblocage de fonds immense pour combattre toutes les maladies, ça fait sourire. Il y a une naïveté là-dedans absolument terrifiante d'ailleurs. Ça fait sourire et ça fait même peur. On ne sait pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. Mais je pense que le passé n'est pas si lointain. Très récent nous a montré que nous sommes excessivement fragiles par rapport au risque de pandémie. Et je crois que toutes les tentatives seront vaines, je pense, pour éradiquer ce type de problématique dans l'avenir. Et je pense que les dérèglements climatiques ne vont pas aider à se débarrasser des maladies. Alors bon, là, on a parlé du vieillissement aussi. On a parlé, je pense qu'il mélange un peu tout. Je pense qu'il y a des priorités. C'est un peu tragique d'entendre parler du vieillissement et des maladies en même temps.
Cela dit, vous auriez pu prendre une explosion nucléaire, une météorite. Vous avez quand même pris un virus. Message sous-jacent, l'homme, finalement, n'est pas si plus vaillant qu'un microbe, en fait.
L'homme est terriblement fragile, l'espèce humaine est fragile, alors elle est en même temps, elle c'est paradoxal, elle est fragile et elle peut être excessivement résistante. Et je pense que la propagation éventuelle de virus, et on a eu Ebola il y a 2 ans, on était quand même à 2 doigts d'avoir ce virus chez nous, il faut quand même pas l'oublier. On oublie très vite, c'était il y a pas longtemps du tout, et aujourd'hui on a d'autres préoccupations et tout d'un coup c'est comme si c'était très très loin de nous.
Alors votre Roxane, qui est l'héroïne du livre, c'est un peu une bactérie, puisqu'elle résiste. Cela dit, j'aimerais pas l'avoir comme DRH, votre Roxane. C'est un mélange de...
I need an insider of someone who knows their methods, their hideouts. I need Terry Sheridan.
Croft.
Voilà, ça c'était Lara Croft. Et aussi avec un petit mélange de... C'était Nikita de Luc Besson. On peut dire ça, un mélange de Lara Croft et de Nikita, votre Roxane.
Oui, c'est pas mal comme cocktail. C'est vrai que ça lui correspond assez. Oui.
Vous aviez envie d'une héroïne qui cogne.
Mais j'avais envie d'une héroïne, qui est très abîmée par la vie et qui, à son tour, s'abîme et abîme autour d'elle.
Alors, dans La Route de Cormac McCarthy, qui on y a pensé quand on a lu votre livre, c'est l'histoire quand même d'un père et d'un fils qui sont un îlot d'innocence dans un océan de barbarie. Pas votre Roxane. Votre Roxane, elle se fond dans le décor. A priori, elle n'est pas sympathique, votre Roxane. Elle est
pas
barbare.
Sympathique. Elle est barbare et je pense que Roxane est à l'image du monde autour d'elle, est à l'image de ce monde à l'agonie.
Alors, le chemin va être périlleux puisque dans un premier temps, elle deal des faux médicaments censés guérir du virus, moyennant quoi ça ne fait qu'augmenter les souffrances des pauvres gens. Et chaque fois qu'elle sort pour aller dealer ces médicaments, elle enfile un niqab. Pourquoi ?
Mais parce que j'ai imaginé que comme un malheur n'arrive jamais seul, les fléaux se déchaînent tous ensemble et que donc en plus de ce virus, en plus du fait qu'il y a des pénuries d'énergie, de courant, d'électricité, de gasoil, il y a aussi des problèmes de fanatisme. Alors des fanatismes religieux, là je les ai envisagés des deux côtés, je dirais, de la barrière. Les fanatismes de type islamiste ont fait naître, ou en tout cas se sont développés de façon concomitante avec des fanatismes judéo-chrétiens. Et ben voilà, au milieu de tout ça, effectivement, pour se protéger, certains endroits sont dorénavant, je dirais, prohibés aux gens qui ne portent pas un certain type de signe d'appartenance.
Et puis il y a des mises en scène de supplices, mis en scène en tout cas par, je vous cite, des silhouettes drapées de noir et coiffées d'une capuche pointue. Ils se font appeler les cavaliers de l'apocalypse et ce sont, je cite, d'anciens bobos que la catastrophe économique avait obligé à mettre au placard le vivre ensemble, ainsi que les ponchos péruviens. Donc, à tous nos auditeurs qui ont des ponchos péruviens, détendez-vous. Mais il y a une espèce de critique un peu sous-jacente aussi de la société.
Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est féroce, mais je pense que dans les périodes de grandes crises et de grandes débâcles, les meilleurs sentiments peuvent très très vite se transformer en pire. Et je pense que les gens qui aujourd'hui sont assez rabiques dans la manière de concevoir le monde, dans la manière de tenter de redresser la barre, ils sont très très moralisateurs, ils sont parfois un peu sectaires. Et moi, c'est une mouvance qui me fait très peur.
Alors, ce qu'il y a de très étonnant, Emmanuel Pirotte, c'est que vous évitez l'esthétisme de la catastrophe. C'est-à-dire que votre écriture ne fait pas dans la dentelle, ça d'accord, mais vous arrivez à toujours éviter l'outrance. Et j'en suis la meilleure preuve, puisque moi qui ne suis pas très férue ou très connaisseuse de science-fiction ou de littérature post-apocalyptique, on plonge dans votre livre, alors et on y barbote comme un poisson même infesté dans l'eau. Mais on slalome parmi les cadavres, il n'y a pas non plus d'excès. Est-ce que vous êtes partie dans l'écriture de ce livre en vous disant « je dois éviter ce piège de la caricature » ?
Pas vraiment, parce que quand je commence à écrire une histoire, je commence d'abord par me pencher très fort sur mes personnages. Et je pense que si eux s'incarnent, sont cohérents, existent véritablement, à un moment donné, ils commencent à suivre une vie propre qui m'entraîne derrière eux et qui peut-être fait en sorte d'éviter de tomber dans une démonstration. Voilà, une démonstration de « voyez comme je parviens à bien délivrer tel message ».
Ou le syndrome de la bonne élève.
Voilà, c'est ça. Je pars jamais d'un message à délivrer, d'un désir esthétique, par exemple. Je pars toujours de « j'ai envie de raconter une histoire et de raconter l'histoire de ces gens-là. Qui sont-ils? Comment évoluent-ils ? » Et quand c'est juste, en général, l'écrivain, enfin parfois, je l'espère, se fait surprendre lui-même par ses propres personnages. Et je pense que de cette façon-là, on est peut-être au plus près d'une véritable histoire et on s'éloigne des clichés.
Écoutez maintenant ce que disait Barjavel. Pour justifier son choix de la science-fiction, lui, il le liait à son rapport un peu trouble avec la réalité.
C'est plutôt pour la fuir que j'écris de la science-fiction. Enfin, la réalité sordide, la réalité ennuyeuse, la réalité imbécile. La science-fiction permet de fabriquer des mondes plus ou moins plaisants, mais enfin des mondes qui sont à la mesure de ce qu'on aime ou de ce qu'on redoute. Mais en tout cas, des mondes qui ne s'imposent pas.
C'est magnifique de dire, ça permet la science-fiction, des mondes qu'on ne nous impose pas. Est-ce que, si vous êtes très honnête avec vous-même, Emmanuel Pirotte, il n'y a pas un petit côté, comme Barjavel, où la science-fiction vous permet de fuir la réalité ?
Absolument, mais de façon générale, l'écriture me permet de fuir la réalité. Et ce que dit Barjavel est merveilleux, mais je crois que ça peut s'appliquer à tous les univers imaginés par un auteur. Qu'il s'agisse de science-fiction, mais qu'il s'agisse du passé, qu'il s'agisse même du présent à partir du moment où on substitue effectivement à une réalité banale ou désespérante, quelque chose qui tout à coup s'éclaire grâce à l'imagination.
On a failli fuir nous aussi en essayant de vous choisir une chanson, figurez-vous, pour cette émission. On a tourné autour de la fin du monde et on a pensé à Alan Vega. Un grand punk, un no futur. Votre Roxane, elle aurait adoré Alan Vega. Il est mort en juillet. Avant, il a laissé une chanson qu'il a fabriquée avec le chanteur Christophe, qui s'appelle Tangerine. Et l'album s'appelle Les Vestiges du Chaos. Et c'était pile poil pour votre livre, si ça aurait pu s'appeler Les Vestiges du Chaos, finalement.
À tout à fait, absolument. Touching infinity.
Chinese prison. The creature made of war. Take the plane to Saturn. I'll follow the Indian. Celebrate their Lord. It knows Mr. Cheyenne. It's a crucified photo of the wrong century.
Emmanuel Pirotte, je vous voyais quand même bouger un peu des épaules. Et vous m'avez avoué, durant ce laps de temps musical, que vous adoriez les années 80.
Ah ben oui, c'est...
Mais faisons un club.
C'est merveilleux les années 80, mais voilà, on était jeunes, on était...
Non, moi j'étais pas née.
Ouais, non.
Je regrette.
Vous j'étais beaucoup trop jeune.
Moi j'étais
mais voilà, moi ce sont mes 16 ans, mes 15 ans, mes 17 ans. Ouais, je suis très nostalgique de cette époque-là, puis... Voilà, la musique était extraordinaire.
Bah, on a pas fait mieux, moi, je trouve, mais vous êtes avec nous jusqu'à 20h. Alors, votre roman glaçant et futuriste s'appelle De Profundis, il est paru au Cherche Midi. Un livre qui raconte la survie de la jeune et féroce Roxane, en prise avec la fin du monde. Et alors, comble du malheur, on lui met entre les mains une petite fille, en lui expliquant, c'est la vôtre, son père vient de mourir, et Roxane avait complètement oublié qu'elle avait enfanté. Bah oui, ça peut arriver des fois. Oups, j'ai enfanté. Alors, dans votre précédent roman, Emmanuel, qui s'appelait Today We Live, il y avait déjà une petite fille menacée qui luttait pour sa survie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez quelque chose avec les petites filles menacées qui luttent pour leur survie.
Absolument, oui. Et je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Ça reste toujours un mystère. Pourquoi je suis tellement travaillée par ce thème-là, je ne sais pas très bien d'où ça. Mais je pense qu'il y a une vraie, il y a une fascination chez moi pour l'exploration de l'enfance. Je trouve que c'est très romanesque, un enfant. C'est une mine pour un écrivain. Et j'ai pris énormément de plaisir à m'occuper de ces enfants.
Alors, en tout cas, voilà Roxane qui est maintenant avec sa petite fille. Et là, le livre, il y a une première bascule. C'est que toutes les deux, elles vont aller trouver refuge à la campagne. Et bien là aussi, j'espère que je ne vous l'apprends pas, vous évitez la caricature. L'idée, c'est pas du tout renaissance à la terre, la nature havre de paix. Vous ne vouliez pas visiblement d'une sorte de catéchisme écologique.
Enfin, j'ai imaginé une situation où ces gens qui avaient mieux survécu dans les campagnes que dans les villes avaient développé des mécanismes de défense, parfois assez violents d'ailleurs. Il y a une forme de racisme qui s'installe, il y a la méfiance par rapport à l'étranger, on essaye de survivre à tout prix et ça devient finalement un monde clos assez égoïste. Et Roxane n'y est finalement admise et encore tout juste que parce que sa famille vient de là. Et donc on revient à des modes sécuritaires, comme ça, un peu petit esprit très étriqué et finalement assez dangereux. Cela étant dit, la nature, par contre, apporte, en tout cas à cet enfant, peut-être Roxane pas, parce que c'est complètement anxiogène pour elle. Elle se fait pas du tout à cette ruralité.
Mais c'est là où on voit toute la capacité d'hostilité de la nature. Et c'est quelque chose qu'on ne lit pas souvent. En général, la nature est considérée comme une
idéalisée.
Espèce de force, de bienfait. Oui. Et vous arrivez en disant, bah non, la nature, elle peut être parfaitement perçue comme une violence, comme un danger en puissance.
Absolument, parce que je pense qu'elle est véritablement les deux, de même que quand elle se déchaîne en catastrophe climatique, en réchauffement, et qu'elle permet d'ailleurs la prolifération d'éventuelles maladies, la nature devient notre ennemi, évidemment, mais parce qu'on l'a malmenée. Et elle a deux faces en fonction de qui la ressent. Voilà, pour Roxane, elle a d'abord un caractère sombre et menaçant. Stella, par ailleurs, va y trouver...
Alors Stella, c'est la petite fille, donc.
Voilà, Stella, sa fille, va y trouver une manière de naître au monde.
Alors justement, en 1980, est sorti au cinéma le film Malville de Christian Chalonge qui était adapté du roman de Robert Merle. C'est l'histoire d'une bande de copains qui prend une cuite dans une cave et pendant qu'ils cuvent leur vin, eh ben, y a la fin du monde. Et quand ils ressortent de la cave, ça a eu lieu. Voilà ce que disait Christian de Chalonge l'année dernière.
Il y a d'abord cette catastrophe dont on ne voit que des lueurs sous la porte de la cave. Là, c'est un autre voyage interplanétaire. Ça, c'est effectivement, quand ils vont sortir de cette cave, il n'y a plus rien, c'est un autre monde, c'est un désastre, ils ne savent pas sur quelle planète ils sortent. Et effectivement, c'est une planète grise, avec des tourbillons de cendres, et petit à petit, la catastrophe, en fait, il s'agit de recommencer à vivre et de recommencer à explorer tout autour l'environnement, le monde. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les débuts de l'histoire de l'humanité, quoi. J'exagère, bien sûr.
Autrement dit, la fin du monde vous ramène au début du monde. Est-ce que vous diriez que Roxane et Stella, vos deux personnages, Emmanuel Pirotte, elles sont à l'aube de l'humanité?
J'ai plutôt l'impression que le roman s'inscrit dans une espèce de temps un peu suspendu avant quelque chose de majeur qui n'a pas encore eu lieu, même s'il y a eu Ebola, il y a eu plein de choses, mais on est, vous savez, dans ce moment de suspension et de silence avant un souffle terrible. C'est un peu comme ça que j'envisage la suite des événements, avec effectivement cette impression que peut-être après tout sera recommencé, et que dans un monde dépeuplé, peut-être dévasté, il y a toujours ce mythe, mais je crois qu'on est tous, il y a énormément de romans qui traitent de ça, des films aussi, il y a quelque chose de très fantasmatique quand même, je pense, pour l'espèce humaine, à envisager sa propre disparition et la capacité à tout refaire à partir du moment où il y aurait des survivants, bien entendu. Ça, peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais oui, chez moi aussi, il y a bien sûr ce fantasme d'une terre à reconquérir. En tout cas, chez moi, il y a le fantasme d'être moins nombreux. Et c'est vrai que l'isolement de Roxane et Stella à la campagne préfigure quelque chose comme une possible renaissance.
La grande purge, voilà, de l'écrivain. Contre toute attente, surgit un fantôme. Et là, quand même, on se dit, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête d'Emmanuel Pirotte pour qu'elle nous mette un fantôme? Il n'est pas méchant. Il est...
Ah non.
Non, il est malheureux. Pourquoi un fantôme?
Alors là, Clara, je vous répondrai que moi-même, je suis toujours en train de me poser la question. Mais sérieusement, c'est un des grands mystères de ce livre. Il y a des tas de choses dont je peux parler et sur lesquelles je peux mettre de la lumière. Mais sur lui, c'est très étrange parce que quand j'ai écrit la toute première mouture de ce récit il y a assez longtemps, le fantôme était déjà là. Cette présence, ce personnage était déjà là. Et il a véritablement surgi de nulle part. Enfin non, de nulle part, c'est pas possible. Je sais bien qu'il a surgi de moi. Mais de quelle partie de moi? Ça, c'est encore la question que je me pose. Eh bien, c'est comme qui dirait, vous savez, ces choses qui vous échappent.
Très fantomatique, en fait.
Voilà.
Oui.
Tout à fait.
La forme épouse le fond. Cela dit, Roxane se rapproche de lui et ça colle. Alors que le couple fonctionne assez bien avec un homme en forme de fantôme, on se dit misère, mais il n'y a pas une vision non plus très optimiste de l'amour, en fait, parce qu'un fantôme, c'est pas très encombrant, finalement.
C'est pas très encombrant.
Alors que vous êtes venu avec votre mari, en plus.
Ça ne mange pas de pain, comme on dit.
Il va être content.
C'est vrai.
Monsieur le fantôme, monsieur Pirotte.
Et en plus, il m'entend, là, mon Dieu. Enfin, je vais faire très attention à ce que je dis. Mais non, c'est vrai que ce couple fonctionne et peut-être justement, enfin oui, dans la mesure où cet être n'est pas incarné, Roxane est quand même très très abîmée. Elle a elle-même un passé compliqué. Je pense qu'elle est assez loin dans une forme de dégoût d'elle-même, de non-accès à ses émotions. En l'occurrence, elle va elle aussi, je pense, renaître à elle-même grâce à cette relation et peut-être précisément parce que c'est une relation qui sort complètement de cette banalité.
C'est sûr qu'il n'y a pas de problème de chaussettes. Il n'y a pas de problème de chaussettes sales. Pour le coup, non plus de ramène le pain. Avec un fantôme, au moins, ça.
Pas de polichinelle dans le placard.
Voilà,
non plus,
c'est ça.
C'est très bien.
Nous allons jouer les fantômes, nous aussi, et se glisser dans votre âme, Emmanuel Pirotte, pour en sortir vos secrets. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Vous voulez que je vous dise mon nom?
Absolument.
Mais Emmanuel Pirotte.
Alors voilà, Pirotte, votre prénom
Emmanuel.
Emmanuel. Vous écrivez assise, couchée ou debout?
J'écris assise, oui.
Assise. Sur ordinateur ou sur papier?
Maintenant sur ordinateur, mais j'ai longtemps écrit sur papier.
Avec beaucoup de ratures?
Je faisais beaucoup de ratures.
Vous êtes chez vous? Vous êtes au café?
Je suis chez moi dans un petit bureau, dans ma maison à la campagne, un peu ancienne, exposée aux quatre vents, chez moi.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
J'ai un tableau de mon papa sous mon nez, une huile, qui est juste au-dessus de mon écran d'ordinateur.
En période d'écriture, votre sommeil, il est plutôt serein, il est plutôt tourmenté?
Je n'ai plus un bon sommeil en règle générale. Que j'écrive ou pas, ça change pas grand-chose. Quand j'écris, il m'arrive parfois de faire plus de rêves. En tout cas, je m'en souviens plus.
Vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant ou pas du tout?
Si, ça m'arrive, oui.
Quand vous écrivez, Emmanuel Pirotte, vous êtes maquillée, coiffée, apprêtée ou au contraire très naturelle?
Je suis très nature, oui.
Qu'est-ce que vous faites durant vos pauses?
Alors, quand je fumais pas mal plus, je fumais. Je sortais pour fumer. Aujourd'hui, je fume très peu, donc je réserve mes cigarettes aux moments cruciaux du processus d'écriture de la journée. Mais elles sont importantes quand même. C'est très bizarre, je vais les fumer dans une remise à bois qui est très sombre. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cocon très protecteur où personne ne vient m'enquiquiner, parce que chez moi, tout le monde déteste la fumée et cette pièce est condamnée. Quand on sait que j'y fume, on sait que ça sent très mauvais et donc on vient pas m'embêter. Voilà.
Est-ce que vous avez relu votre premier roman?
Non, je l'ai plus lu, je l'ai plus lu depuis qu'il est sorti, depuis bien avant sa sortie d'ailleurs.
Vous redoutez ou pas?
Mais j'ai entendu des morceaux, parce qu'il y a des lectures. Moi, on m'a demandé à l'une ou deux reprises de lire moi-même. Et je ne redouterais pas. Si on me demandait de le relire pour une raison bien précise, je le ferais, je pense, sans avoir trop peur.
Est-ce que vous vous souvenez du film Ghost, avec Demi Moore et Patrick Swayze?
Ah ben, en parlant des années 80.
Voilà, en 1990, en fait.
Ah, voilà.
L'histoire d'un fantôme qui essaie de communiquer avec sa fiancée. Est-ce que vous vous souvenez, Emmanuel Pirotte, de la scène avec la poterie?
Mais comment oublier érotisme torride.
La terre glaise monte et s'épaissit entre les jambes de Demi Moore. Ça méritait quand même 3 minutes de chair de poule pour les auditeurs de la Muse-Bouche avec la musique du film Unchained Melody. Oh,
time.
il fait chaud. Alors nous, on plane complètement avec Emmanuel Pirotte. Vous écoutez l'Amuse-Bouche jusqu'à 20h. Votre roman, Emmanuel, s'appelle « De profundis ». Il est paru au Cherche Midi. Ah, c'est Bec BD. Ça, Emmanuel, pardon. Voilà, il est en retard.
Oui, pardon, mesdames.
Bonjour, Frédéric.
Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis désolé, je suis en retard parce que j'étais dans le futur. Mais il faisait 41 degrés, donc je me suis dit, je suis revenu en hiver 44. Et puis là, il faisait très 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 froid, donc du coup, je suis revenu dans le présent.
Voilà. Je vois. Et vous êtes avec nous.
Oui, parce qu'en fait, pourquoi je suis allé en hiver 44, c'était le roman précédent d'Emmanuel Pirotte, Today We Live. Et c'est d'ailleurs ce que vous devriez faire. Hein. Vous devriez arrêter.
Enfin.
Donc, vous avez écrit sur l'avenir là dans votre deuxième roman et dans le premier sur le passé. Et c'est une période, décembre 44, donc où l'armée allemande contre-attaque dans les Ardennes, que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'avais fait un livre qui s'appelait Una et Salinger, qui était, je m'étais bien documenté là, sur cette période qui est atroce, où on croyait que la guerre était finie, puisqu'il y avait eu le débarquement en Normandie, la libération de Paris, puis en fait, pas du tout, il y a eu cette bataille terrible à Urdgen, et votre roman était vraiment très très bien travaillé, très documenté.
Merci.
Vraiment, je vous félicite sur cette période. Alors, vous avez dit, Clara, l'essentiel, c'est que toute l'œuvre d'Emmanuel Pirotte raconte des histoires de petites filles recueillies par des adultes. Dans le premier, c'était un SS, un nazi, qui sauvait une petite fille juive. Et dans le second, c'est cette dame et sa fille qu'elle découvre. On ne peut pas faire l'impasse sur la question de votre père. Votre père, ce grand romancier, grand poète, Jean-Claude Pirotte. Évidemment, peut-être que ça n'est pas conscient, mais vous allez nous le dire. Quand vous parlez de cette petite fille, quand vous parlez de transmission, quand vous parlez de survivre, et tout ça, est-ce que vous parlez un peu de Jean-Claude ?
Eh bien, si c'est le cas, c'est tout à fait inconscient, comme vous dites, vraiment. Parce que, voilà, moi, j'écris des histoires, je ne parle pas de moi, et je n'ai pas du tout envie de parler de moi en écrivant. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de parler de moi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, avec les deux romans, là, je devrais peut-être commencer à me poser la question.
Et en plus de ça, c'est à chaque fois l'apocalypse. Parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est véritablement épouvantable. C'est vraiment une boucherie. Les GI surnommaient d'ailleurs l'endroit où vous situez l'action, cette forêt, la surnommée de Meat Factory, l'usine à viande, c'était atroce. Et dans ce nouveau roman, c'est encore une fois la fin du monde. Oui. Et bizarrement, vous parlez de la fin du monde dans le passé et dans le futur, mais pas dans le présent. Est-ce que dans le troisième roman, vous parlerez de l'apocalypse en 2016 ou dans 2017, 2018 ?
Mais non, je pense pas. Non, le troisième roman, il se passera dans le passé. Alors bien franchement, parce que je suis restée longtemps, dans le 20e et puis dans le 21e siècle. Et puis comme j'ai pas trop envie de parler du présent, justement, non, j'ai pas envie de parler du présent.
Ouais. Pourquoi ?
Je ne sais pas très bien. J'ignore pourquoi. C'est une très bonne question. Peut-être parce que j'ai vraiment aimé ce qu'a dit Barjavel tout à l'heure. J'y repense là maintenant, de nouveau. Peut-être parce que je m'ennuie pas du tout dans ma vie. Entendons-nous bien. C'est juste que l'époque ne m'inspire pas. J'y suis tous les jours et je n'ai pas envie d'y rester en écrivant. En écrivant, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de partir vers des choses très différentes. Et donc, pour le moment, en tout cas, je pense que je vais quitter encore une fois mon époque.
En tout cas, Emmanuel Pirotte, vous n'êtes pas, vous, un fantôme. Vous êtes une humaine. Je vous remercie de saluer ma transition, s'il vous plaît. Vous êtes donc un réservoir à zone d'ombre. Non, il fallait que je case réservoir à zone d'ombre, j'avais fait un pari. Voilà. Donc, j'ai gagné mon pari. Est-ce qu'il y a une chanson ou un film catalogué un peu ringard, un peu kitschouille, que vous aimez secrètement ou pas tant secrètement que ça d'ailleurs?
Mais j'assume assez bien mes coups de cœur pour des choses un peu ringardes. Mais oui, alors
il y en a un en particulier.
Oui, il y a une chanson de Wham que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est Last Christmas.
Oh. Voilà. Nous sommes trois autour de cette table et au moins 2 millions en écoutant cette émission.
Je crois, c'est pas très original, mais bon, j'avais envie d'en parler. Moi, c'est ma Madeleine de Proust. Hein. On a les Madeleine de Proust qu'on peut. Voilà, moi c'est.
Et c'est laquelle de Wham?
Mais c'est Last Christmas.
Ah,
Last
c'est Christmas. Ça. C'est bien ce que j'avais envie de fredonner là maintenant tout de suite.
Qu'est-ce que c'est bien organisé cette émission.
Merci. Alors pardon à tous nos auditeurs qui sont en train de préparer à manger ou qui se préparent pour sortir, après on l'a dans la tête et ça ne décolle pas. du fond du cervelet, mais je pense que c'est fait pour. Est-ce qu'il y a un classique, Emmanuel Pirotte, qui vous tombe des mains? Vous essayez, ça ne marche pas, et on n'ose pas trop le dire, parce qu'on a un peu honte, mais...
Oui, il y a un livre dont on a fait un film que j'ai jamais pu entrer dedans.
Ah, c'est quoi?
Alors, c'est Hiroshima, mon amour, Marguerite Duras, ça c'est pour moi, c'est très pénible.
On va avoir des ennuis.
Mais je croyais qu'aujourd'hui, c'était pas trop grave d'oser le dire. Il fut un temps où je pense que c'était vraiment iconoclaste.
Non, c'est vrai, ouais. Non, mais... je pense que sur France Inter, on peut le dire, mais pas sur France Culture.
Et encore, je pense qu'on va peut-être froisser des gens, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, bah, attendez, c'est comme ça, chacun ses goûts, et puis on aime, on n'aime pas, c'est comme ça.
Alors, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a une distance dans cette écriture, quelque chose comme une pause, je ne sais pas mieux dire, quelque chose de très intellectuel, de très... Et alors, le film d'Alain René, ça, je pense que c'est le pompon.
La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus. Enfin. Tu me tues encore. Tu me fais du bien.
Concours de rigolade signé Alain René.
Oui, mais attendez, c'est le même thème que son roman en même temps. C'est la fin du monde, c'est la destruction absolue, Hiroshima.
Oui, c'est la description. Oui, mais en même temps, il y a quand même il y a ce gouffre entre cette histoire, l'histoire de cette femme Nevers et puis Hiroshima. Enfin voilà, moi j'ai pas bien. Pour moi, ça me laisse pas tellement.
Ouais, elle aime pas. C'est comme ça. On a bien le droit et voilà. C'est pas le genre de film non plus qui a avalé un clown.
Ben oui, après tout, maintenant, j'ai jamais justifié de voilà. Mes avoirs.
Marguerite Yourcenar était d'accord avec vous. Elle avait même eu ce mot assez marrant. Pourquoi pas Auschwitz, mon chou.
Absolument, c'est elle qui avait dit ça.
Marguerite Yourcenar.
Ah, magnifique, j'adore ça. Ouais.
On reste dans la joie de vivre, puisqu'il est l'heure de passer à table. Une autre apocalypse va démarrer. Restez confiants, tant que vous avez des livres, hein, vous survivrez. Des Profondis d'Emmanuel Pirotte est paru au Cherche Midi. La semaine prochaine, nous recevrons Alexandre Postel pour Les Deux Pigeons, paru chez Gallimard. L'Amuse-Bouche doit sa survie à Marie-Annick Rimbaud, Amel Caldi, Thierry Dupin et Serge Viguier. Tout de suite, cette expression directe après 20h, ce sera D'ici et d'ailleurs de Zoé Varier. Et pour toute la vie, eh ben c'est vous dans nos cœurs. On vous retrouve samedi, même si la fin du monde a eu lieu. Bonne semaine.